Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, l'émission politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. L'invité du jour, c'est Valérie Mantouf. Bonjour.
Bonjour.
Auteure, éditrice au Mucem et lauréate du prix Renaudot 2018 pour Le Sillon, un roman publié aux éditions Le Tripode. Vous êtes également marseillaise, la précision a son importance puisqu'il sera question dans cette émission de Marseille, de ses turpitudes, de ses drames, de son habitat, de ses écoles, de ses habitants et bien sûr de son élection à venir, un programme riche. Avec moi pour animer cette émission tout beau, tout bronzé, c'est Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Mais juste avant de commencer, Valérie Manteau, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour inaugurer notre 13e saison de la Grande Tchatch, nous aurions pu convier l'un des candidats déjà déclarés pour les fameuses élections municipales qui approchent à grands pas. Patience, promis juré, vous aurez bientôt l'immense bonheur d'entendre sur la grenouille celles et ceux qui se lancent à la chasse au mandat dans nos villes et nos campagnes. Mais la politique est une chose trop sérieuse pour n'en parler qu'avec des hommes ou des femmes politiques. Cette année électorale, plus encore que les précédentes, nous inviterons donc des personnalités engagées dans le débat public, mais qui ne font pas de la politique une profession. La preuve. Aujourd'hui, nous allons donc tchatcher avec une écrivaine. On ne naît pas écrivain, on le devient. Valérie Manteau, pour vous, le déclencheur, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Charlie, vous connaissiez. C'est Charles et sa bande qui, après des études littéraires et un mémoire sur Aimé Césaire, vous offrent un premier job. Nous sommes en 2008, vous avez 23 ans et vous entrez ainsi aux éditions Les Échappées, fondées par les dessinateurs. Durant 6 ans, vous êtes donc éditrice pour Charlie, puis chroniqueuse littéraire dans l'hebdo satirique. En 2013, vous avez rejoint Marseille, vous avez été chargé d'édition au Mucem jusqu'en 2018. Le massacre à Charlie vous touche intimement. En 3 semaines, vous rédigez Calme et tranquille, votre premier roman qui raconte l'irruption brutale de la violence dans la vie d'une jeune femme, c'est sur la 4e de couverture. Texte à vif, vous y faites à la fois le récit de vos années Charlie avec ses conférences de rédaction et ses personnages haut en couleur, et celui d'un suicide, celui de votre grand-mère un soir, juste après avoir regardé Koh-Lanta. Car la tragédie, heureusement, n'éclipse jamais tout à fait le rire. Mais c'est la parution de votre deuxième roman, Le Sillon, qui vous vaut votre consécration en tant qu'auteur. On y découvre, comme la narratrice partie à Istanbul pour rejoindre son amant, la Turquie sur laquelle se resserre l'étau du régime d'Erdogan. Le livre consacre une place centrale à Hrant Dink, journaliste turco-arménien assassiné par un nationaliste turc. Il s'agit d'une fiction, même si Le Sillon puise à nouveau dans votre biographie. Publié au Tripode, un petit éditeur, le livre a reçu en 2018 le Renaudot, l'un des plus prestigieux prix littéraires. Une surprise alors qu'il n'était même pas annoncé parmi les finalistes. Mais ce couronnement à 33 ans, le 7 novembre, a eu lieu 2 jours après un effondrement, le 5 novembre. Et après un nouveau drame vous frappant une fois de plus de près. Celui de la mort de 8 victimes du logement indigne à Marseille, quartier Noailles, où vous habitez. Et vous voilà, loin des salons littéraires, à courir les assemblées des collectifs d'habitants réclamant justice, vérité et action, tout en fustigeant la gestion lamentable de la crise. Vous voilà, partageant les attentes d'un changement radical dans la gouvernance marseillaise. Vous voilà, écrivaine, et vous voilà, engagée.
Valérie Manteau, un commentaire à ce portrait à la sauce ravie ?
Non, tout est dit, c'est parfait. Je pense qu'on peut passer à autre chose.
Michel Guéraud, on débute avec le logement, c'est ça ?
Bah oui, donc vous voilà engagée.
Je pense que j'étais un peu engagée avant, oui. et je le suis toujours, je suis engagée, dégagée. Il y a un truc un peu pas clair chez moi sur cette question de l'engagement. Il se trouve que depuis quasiment un an maintenant, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en même temps, vous disiez loin des salons littéraires, mais je ne suis pas complètement loin des salons littéraires.
Oui.
J'essaye quand même de à la fois de profiter de la chance que j'ai de pouvoir accompagner mes livres et de profiter des invitations qu'on me fait. Et parce que malgré tout, le milieu littéraire, c'est quelque chose qui est important pour moi.
On peut le dire en deux mots, car enfin, le Renaudot, c'est une espèce de booster. Enfin, il a été retiré combien de fois depuis trois fois
beaucoup. Non, plus que
plus
ça.
Que ça
mais,
60,
je
plus sais de pas. 60 000, c'est ça, vendu.
J'en
sais rien. Mais c'est ça, bien sûr.
Oui, alors par contre, avec les chiffres, je ne vais pas être bonne. Mais c'est sûr que le Renaudot, ça a changé beaucoup de choses. Mais de toute manière, dès la sortie du deuxième livre, ça a été vachement important à la fois la presse et les invitations. Il se trouve que le livre était vraiment sorti dans la rentrée littéraire et qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup d'échos. Et moi, j'avais vraiment envie de profiter de ça, à la fois comme écrivaine, mais aussi vu le sujet du livre. Mon deuxième livre, il est très engagé. Et c'était pour parler des questions de liberté et de droit en Turquie, mais qui font des échos, il me semble, à beaucoup de choses qui se passent chez nous.
On y reviendra en deuxième partie d'émission, oui.
Mais donc, pour ces raisons-là, il me semblait qu'occuper le champ littéraire, à ma manière, c'était important de le faire. Et j'ai continué à essayer de le faire, même si aujourd'hui je suis engagée un peu sur le terrain à Marseille, avec le collectif du 5 novembre. Mais j'essaye de garder un tout petit peu de distance, autant que possible de distance, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais quand on se dit que le boulot d'écrivain, c'est d'essayer de prendre de la hauteur et d'analyser les choses, j'essaye de le faire. C'est pas évident. Mais...
Vous avez parlé de votre engagement avec le collectif du 5 novembre. Le 5 novembre, ça s'est fait le 5 novembre. Après le drame, la catastrophe de la rue d'Aubagne, je le rappelle pour les auditeurs, 8 morts dans l'effondrement de 2 immeubles, 3000 Marseillais délogés de leur appartement jugé dangereux, sans oublier Zineb Redouane, 80 ans, victime collatérale. Vous aviez à l'époque publié une tribune qui avait fait grand bruit. Vous aviez dit cette phrase que tout le monde a repris depuis, on le fait nous également. Là-bas, tout craque, mais la première planche pourrie, c'est notre personnel politique. Une explication à cette phrase pour les auditeurs ?
Je pense que c'est évident et ça a fait que se confirmer depuis. Si je prends simplement l'exemple de ce qui s'est passé le 5 novembre, les habitants du 65 rue d'Aubagne avaient été évacués quelques semaines avant et c'est l'adjoint à la gestion des risques de la mairie de Marseille, Julien Ruas, qui a signé l'arrêté permettant la réintégration de cet immeuble, considérant qu'il n'y avait pas de problème avec l'immeuble et que les gens pouvaient réintégrer. Et quelques semaines après, l'immeuble s'effondrait sur les personnes. Et visiblement, on n'a toujours pas tiré les leçons de ça puisque on en a vu par dizaines ensuite des évacuations et des demandes de réintégration dans des immeubles qui sont complètement insalubres et dangereux. Donc ça continue.
On est quasiment un an plus tard. Quel bilan vous tirez de la gestion de cette crise ?
Je la trouve très violente. Je porterai pas de jugement sur la qualité de la gestion. Je pense qu'elle est mauvaise. Mais par ailleurs, elle est violente. Il y a une grande violence qui s'exerce. Et de plus en plus grande, il me semble, ces dernières semaines, à mesure que les élections, ça y est, commencent à être très présentes et qu'on sent que les choses vont se tendre. Et que malgré tout, depuis des mois, il y a de la solidarité qui se passe dans cette ville. Il y a le mouvement citoyen, la solidarité des gens a fait beaucoup pour pallier la défaillance des institutions et des pouvoirs publics qui auraient dû faire ce boulot. Mais il se trouve que c'est nous qui l'avons fait et que maintenant, ça se retourne contre nous. Ça se retourne de plus en plus contre les citoyens, contre les militants, et avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de désinvolture. On voit que les derniers grands cas d'évacuation qu'il y a eu dans Marseille, je pense à Maison Blanche, je pense à la rue Curiole, on a essayé de mettre sous le tapis ces évacuations, de pas poser les arrêtés de péril, parce qu'on a envie, il me semble que c'est pour ça la raison, qu'on n'a pas envie de faire gonfler les chiffres d'évacuation, on a envie de dire, d'afficher que la crise est finie et que ça y est, c'est réglé, le 5 novembre c'est loin. Quand on dit 3000 délogés, tout le monde essaye de pinailler sur les chiffres, on nous dit qu'il y a plus que quelques centaines de personnes à l'hôtel, alors qu'il en reste encore des centaines et plus d'un millier dans des logements temporaires. Donc la crise, elle n'est pas du tout finie et on continue d'évacuer toutes les semaines.
Alors le gouvernement s'était précipité à Marseille lors de la catastrophe. Il a mis en place un numéro vert pour lutter contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil. Encore un numéro vert, c'est une spécialité de ce gouvernement. Une réaction là-dessus ?
Oui, alors on a essayé de l'appeler le numéro vert parce que il se trouve qu'il a été mis en place après une évacuation particulièrement violente le 9 septembre dernier. Un immeuble du 36 rue Curiole, donc plein centre-ville, à côté de la Plaine, a été vidé de ses habitants et la plupart des habitants ont été mis à la rue. Et il se trouve qu'une militante du collectif rentrait chez elle avec ses gamines ce soir-là et a vu les familles à la rue avec 11 gamins, 22 personnes je crois en tout, et 11 gamins à la rue. On a appris au fur et à mesure que la propriétaire de l'immeuble et qui avait fait mettre ces gens dehors, c'était Marseille Habitat, un bailleur social, et qui avait fait détruire à la masse l'ensemble des sanitaires de l'immeuble pour éviter que les gens ne reviennent et les laissant à la rue. Ça c'est vraiment des méthodes que nous on qualifie comme des méthodes de marchands de sommeil. Elles sont illégales. Donc maintenant on est bien content de voir qu'on a un numéro vert, on a essayé de l'appeler. Alors évidemment, il n'y a pas de personnel dédié derrière. On tombe sur la DIL, qui sont des juristes, qui sont là pour accompagner les personnes qui veulent signaler des situations d'insalubrité. célébrité, donc on l'a fait. Et on a signalé Marseille Habitat en tant que marchand de sommeil. On attend de voir si on aura des conséquences là-dessus.
Les marchands de sommeil qui investissent dans ces logements insalubres s'enrichissent grâce aux allocations des locataires. On a eu des exemples à droite comme à gauche, c'était assez surprenant, d'élus qui étaient eux-mêmes qualifiés, de, ou qu'on pourrait qualifier en tout cas, de marchands de sommeil. Une réaction sur ces élus qu'on dévoile? Le dernier, c'est Mohamed Lakhila et Christophe Madrol.
Oui, j'ai vu que la Marseillaise avait, avait sorti encore des cas d'élus qui étaient propriétaires d'appartements dans des copropriétés complètement insalubres et qui louent les appartements à des prix qui me semblent quand même très étonnants. Moi, j'ai lu 600 euros pour des petits appartements dans une propriété complètement dégradée. Ça me semble effectivement très cher. Sur les 600 euros de loyer, il y en a effectivement 450 qui sont payés par la CAF. Donc ça, ça a un nom. Enfin, c'est les CAFistes. C'est les gens qui effectivement, se remboursent leur emprunt d'appartements qu'ils ont achetés pas très cher en profitant des aides qui sont censées aider les personnes à habiter dans des logements corrects. C'est pas les premiers. On se rappelle que 65 rue d'Aubagne, il y avait un élu de la région qui était propriétaire, et il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu 3 ou 4 qui ont été dénoncés, qui n'ont toujours pas eu de conséquences sérieuses, il me semble.
Alors les 3 premiers des élus LR, on leur a retiré leur délégation, mais par contre sont toujours élus.
Mais ils sont toujours élus, ils continuent à siéger.
Voilà, ils siègent, hein, donc ça s'est passé comme ça, là, pour Madrol et Lakhila, donc effectivement, anciennement de gauche, je ne sais pas comment ils se définissent aujourd'hui, hein, vert.
C'est compliqué.
Il ne suffit pas de se définir aujourd'hui, parfois centriste, aussi, il y a des faits.
Ils sont modem et tous les deux candidats, en espérant avoir l'étiquette en marche pour les municipales, l'un sur Aix et l'autre sur Marseille. Et le dossier dont on parle, ça se situe au Rosier, à la copropriété dégradée. Ça, c'est les dernières révélations, effectivement, à la Marseillaise. Il y a eu une députée en marge du même camp, Alexandra Louis, qui a réclamé un plan d'urgence pour la cité des Rosiers. En parlant d'urgence humanitaire, je ne sais pas comment elle réagit vis-à-vis de ses amis, et qui a aussi qui s'est exprimé publiquement. Est-ce que vous pensez que, y compris dans cette majorité-là, il y a eu des retours, des écoutes, une volonté d'avancer?
Alors,
ça vous semble très insuffisant?
Je suis pas tout à fait dans les cercles de La République En Marche. Je peux pas tellement parler pour les gens qui y sont. Après, c'est vrai que j'imagine qu'il y a une contradiction assez forte dans ce mouvement qui quand même prétendait ramener des nouvelles personnes, des nouvelles pratiques et une nouvelle éthique dans la politique. Donc, si j'étais militante, voire élue En Marche, je serais très mal de voir ça. J'espère qu'ils sont très mal. Après, on verra bien. Je sais, il continue à y avoir des rumeurs de négociations pour les investitures au municipal, d'alliance entre En Marche et Les Républicains. Donc, s'ils font alliance, on saura à quoi s'en tenir sur les nouvelles pratiques et le renouvellement du personnel politique dont on parle pour ce mouvement. Bon, après, moi, je me fais pas beaucoup d'illusions sur En Marche.
Alors, les chiffres et la situation, elle est pas seulement locale, elle est également nationale, et c'est là le drame. Selon le chiffre de la Fondation Abbé Pierre, il y aurait 600 000 logements tenus par des marchands de sommeil en France. À Marseille, c'est quand même plus de 40 000 qui sont considérés comme indignes. Et selon ce même rapport, l'immense majorité de ces logements, 30 500, c'est précis, qui sont habités par des locataires qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs et qui payent des loyers démesurés. Alors la situation, finalement... est plus que complexe, elle vient d'où? Signaler, mais pas seulement signaler, offrir une situation sociale meilleure, comment ça se passe?
Non, mais c'est ça en fait qui est assez complexe, parce que parfois les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'on en arrive à avoir des gens qui payent extrêmement cher, enfin tout est relatif, mais pour des loyers marseillais, il y a des gens qui payent des fortunes. Moi, dans mon immeuble, il y a une famille qui est sous la coupe d'un marchand de sommeil et qui paye 600 euros pour un appartement de 30 mètres carrés avec une fenêtre qui donne sur un puits de lumière. On est dans un immeuble de 6 étages, donc autant vous dire, ils n'ont pas de lumière. Comment est-ce que des gens peuvent se retrouver à payer 600 euros? Avec 600 euros dans Marseille, dans Noailles, on peut avoir un appartement tout à fait correct. Pourquoi est-ce que ces gens-là payent 600 euros pour un appartement complètement indigne? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Parce que les seuls propriétaires qui accepteront de prendre leur dossier, qui accepteront éventuellement d'être payés un peu en retard une fois de temps en temps, quoique en général c'est pas hyper coulant, et ben voilà, c'est les marchands de sommeil. Donc c'est l'extrême rigidité et dureté de notre société qui fait que ce sont les plus pauvres qui se retrouvent à payer le plus cher pour vivre dans les conditions les plus indécentes. Et il faut avoir conscience de l'ensemble du processus avant de se demander pourquoi est-ce que les gens se retrouvent à habiter là-dedans, pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués dans ces logements-là. Et pourquoi est-ce que, enfin, au bout d'un moment, il y a aussi une responsabilité publique, quoi. Je veux dire, c'est pas possible que la mairie soit pas au courant de ces choses-là, alors que nous tous qui habitons dans ces immeubles et dans ces quartiers, on les connaît, ces appartements.
Pour l'heure, personne n'a été mis en examen. La justice, il y a eu des
plaintes. Parmi les marchands de sommeil, non. Mais non. Voilà, parmi les militants,
on va en parler. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cette lenteur à prendre en main, du point de vue de la justice, le dossier, alors que les plaintes ont...
Je ne sais pas très bien quoi vous dire de plus intelligent que l'évidence. Quoi. Il y a une... Alors la justice, c'est lent, donc ça c'est normal pour faire bien le boulot. Je crois que sur l'effondrement de la rue d'Aubagne, quand même, le dossier d'instruction est en route. Et ça prend du temps d'instruire un dossier dans lequel il y a des morts et des responsabilités multiples. Alors moi, je n'ai aucune information de l'avancée et de la façon dont va être mené ce dossier-là. J'espère qu'il le sera le mieux possible. Par respect, ne serait-ce que pour les morts, et qu'on remontera les responsabilités là où elles doivent être. Mais c'est pas à moi de le dire. Après, tout ce qu'on peut dire, on parlait de ce fameux numéro vert sur les marchands de sommeil. Je vous dis, nous, on l'a testé. Et effectivement, pourquoi pas faire un numéro vert? Mais encore faut-il qu'il y ait des gens derrière qui prennent vraiment le dossier en main et qu'ensuite, il y ait des suites pour les marchands de sommeil. Avec 3000 personnes délogées à Marseille depuis novembre, comment c'est possible qu'il n'y ait pas encore eu des remontées de mise en examen des propriétaires de ces immeubles? C'est pas que des... Il y a aussi beaucoup de propriétaires occupants qui ont été délogés. Mais quand même... il y aurait des suites à faire. Il y aurait des suites à faire qui sont pas faites. Et malheureusement, on voit que là, c'est très très lent, alors que dans d'autres cas dont j'imagine on va parler, on a des gardes à vue immédiates et on a des répressions immédiates.
Alors allons-y, parlons de cette fameuse garde à vue, Kevin Vacher, donc une des figures emblématiques du collectif qui a passé 28 heures en garde à vue et qui a été libéré, fort heureusement, mais il est sous contrôle judiciaire. Et qui est renvoyé donc devant le tribunal correctionnel de Marseille, ça sera le 30 janvier, pour répondre de violences volontaires en réunion et avec préméditation. Et là, à l'origine, il y a une action, le 11 septembre, à laquelle vous avez participé, je crois.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette action? C'était alors, violent, alors?
Oui, c'était violent, mais pas de la façon dont on le dit. C'est l'épisode de la rue Curiole dont je vous parlais tout à l'heure, du 36 rue Curiole, dans lequel des familles ont été mises à la rue. On a négocié jusqu'au très tard dans la nuit que ces familles soient prises en charge dans le cadre des conditions qu'on a essayé de négocier dans la charte de relogement, qu'elles soient mises à l'hôtel par la mairie. Ça a été obtenu le soir même et le lendemain, les familles se sont entendues dire qu'elles ne seraient pas prises en charge dans le cadre de la charte de relogement et qu'il fallait qu'elles aillent voir Marseille Habitat, qui était le propriétaire de l'immeuble, pour négocier leur relogement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de les accompagner à Marseille Habitat. Il faut savoir que dans ces habitants, il y avait 7 familles albanaises, dont la plupart des personnes ne parlent pas très bien français. La difficulté dans ces moments-là, c'est de ne pas se noyer dans le problème administratif et la complexité de tout ça. Donc on les a accompagnés à Marseille Habitat. On était 5 personnes du collectif et on avait 2 journalistes avec nous. Et au moment d'entrer dans Marseille Habitat, il y a eu une bousculade et apparemment une personne de l'accueil de Marseille Habitat s'est fait mal au pouce. Sur quoi, moi, qui étais présente, je ne m'en suis même pas aperçue. Je n'ai pas eu conscience du problème. On a discuté avec la directrice de Marseille Habitat qui est venue nous voir. On a négocié le relogement de ces personnes, qui était le problème majeur quand même pour nous de cette journée-là, le problème humanitaire qu'on avait sous les yeux. On nous a offert du café, le temps de patienter, etc. À la fin de la journée, on avait négocié. Les gens étaient pris en charge et on est rentrés chez nous. 2 jours après, Kevin est appelé par la police pour être convoqué au commissariat pour cette histoire de pouce cassé. Et le lundi, il se rend au commissariat et il se trouve qu'il est mis en garde à vue pour, alors vous l'avez dit, violence avec aggravée, volontaire,
en réunion
avec préméditation. Alors il n'y a rien qui va dans ce truc parce que si c'est en réunion, je ne sais pas pourquoi, moi qui étais là, je ne suis pas mise en examen également. Avec préméditation, quand on voit tout le circuit de négociation qu'on avait fait avant et après, c'est grotesque. À aucun moment ça n'a été une action violente. On a toujours été un mouvement pacifiste et on est là pour négocier la prise en charge des personnes à l'hôtel. On n'a aucune raison d'être violent là-dedans. Mais la disproportion de la garde à vue, elle est évidemment faite pour nous intimider et la disproportion des charges, elle est faite à la fois pour nous faire perdre du temps et pour nous intimider.
Alors Kevin Vacher n'était pas le seul à être en garde à vue. Nous avons quelqu'un avec nous, je crois, Michel, par téléphone.
Oui, alors peut-être vous allez nous la présenter, Valérie. Vous avez souhaité donner la parole comme ça au téléphone à quelqu'un. Dites-nous qui.
Alors c'est Afida qui fait partie du collectif des habitants de la Maison Blanche. Il faut dire que cette évacuation du 36 rue Curiole, elle arrivait après une autre évacuation de masse qui était à la cité Maison Blanche dans le 14e arrondissement, dans les quartiers nord. Et suite à un incendie, c'était le 23 août. Et Afida faisait partie du collectif des habitants de Maison Blanche. Elle va nous raconter elle-même ce qu'ils ont vécu de l'évacuation, de la façon dont ça a été pris en charge. Afida, tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Comme le disait Valérie Manteau, vous avez été directement témoin de cette évacuation et de ce qui s'est passé après.
Alors oui, en effet, je suis intervenue en fait sur les lieux, allez, peut-être une demi-heure après l'incendie. Et à mon grand étonnement, je me suis aperçue que en fait les familles sinistrées, elles étaient complètement éclatées sur le quartier. Ça veut dire qu'il y avait des enfants, des bébés, des familles toutes dispersées, une propre famille, par exemple le frère était à gauche, les parents étaient de l'autre côté du boulevard. Il y a une mise en place de sécurité qui a été faite par la police. Donc oui, c'était une situation un peu autoritaire, quoi. Toutes les familles étaient exposées à gauche, à droite. Elles pleuraient, elles étaient à nu. Personne n'était sur les trottoirs, les regards vides. C'est vraiment une situation vraiment dramatique. Et il n'y avait personne, en fait, sur le terrain, en bas du bâtiment en feu. Il n'y avait vraiment personne. Au contraire, il y a une sécurité qui a été mise en place. Et aucune communication avec les familles, avec les victimes, avec les habitants du quartier. Personne ne leur parlait. C'était un silence assourdissant lorsque je suis arrivée. Personne ne parlait. Le silence, des regards vides, des gens perdus qui ne savaient plus quoi faire. Les flammes qui sortaient des balcons. Bon, il y avait la police qui était là, il y avait quelques organismes qui étaient là. Mais personne ne parlait avec personne, en fait. C'était juste vous. Ne passez pas par ici, faites le tour. Non, vous, c'est interdit. Non, oui, non, oui. Tout simplement.
Alors depuis, donc, ouais, depuis, bonjour, depuis à Maison Blanche, donc il y a eu beaucoup de personnes sinistrées, évacuées, mais il y a un souci dans la prise en charge de ces personnes. Donc il y a des revendications. Là, où vous en êtes en ce moment ?
Alors justement, la seule chose qui était évoquée, donc lorsqu'on attendait la visite du maire, ou du moins de ses assistants ou de quelqu'un de la mairie, de la ville, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune assistance, en fait. La seule chose qu'ils ont proposé, c'était des boissons chaudes et des chips. Voilà. Quoi d'autre ? Ils ont proposé en fin de journée, vers 20h, à peu près, vers 20h, ils ont proposé un gymnase, deux nuits en gymnase. Donc le feu a eu lieu le vendredi. Ils étaient prêts à les prendre en gymnase jusqu'au lundi matin. Donc lundi matin, on ne sait pas quoi, où aller être dirigées ces familles-là. Donc la ville leur a proposé un gymnase, deux nuits en gymnase, avec un repas distribué là-bas, sur place.
Et finalement, c'est vous qui avez donné les repas et qui avez hébergé les gens. C'est le collectif des habitants, finalement, qui a dû fournir les repas et accompagner les personnes pour qu'elles soient relogées à l'hôtel.
Comment ? Voilà, ces familles sinistrées ont catégoriquement opposé à cette solution qu'ils leur ont proposée, des deux nuits au gymnase. Suite à ça, plus d'autres solutions, les repas, ils ont été confisqués. Et puis voilà, quoi. Donc ces familles se sont retrouvées seules depuis 11h30, il y a eu le feu le matin, jusqu'à 21h, on a commencé à les nourrir pour certains sur place, ou sinon ben, le temps de se réunir pour préparer des sandwichs avec l'aide de quelques collègues, dont Noailles, SQPM. Et après, on a dû aller leur trouver des chambres d'hôtel et apporter ces sandwichs dans les chambres. Donc, on a dû galérer comme pas possible pour les reloger et essayer d'avoir ces nuits avec un peu de dignité pour ces familles, qu'elles puissent dormir correctement.
Ouais, est-ce que j'ai trouvé hyper beau. Moi, je suis allée plusieurs fois vous voir à Maison Blanche et c'était la solidarité incroyable de gens qui venaient alors du quartier ou de tout Marseille apporter des dons. Il y avait énormément de produits pour les enfants, de jouets, de nourriture, de vêtements. Et c'est vous qui vous êtes occupé de collecter tout ça, de le redistribuer personnes. C'était juste magnifique.
Alors tout à fait, c'est grâce au réseau tout simplement. Et la solidarité humaine, la chaleur humaine qu'il y a dans ce quartier Maison Blanche, même si les bâtiments sont pourris, même si c'est dégueulasse, qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moyens, rien ne leur est fourni. C'est vrai que la vie est très pénible pour ces habitants dans ce quartier assez délabré. Mais malgré ça, il en ressort, comme je vous ai dit, une chaleur humaine. On a pu compter que sur ces familles entre nous, entre elles, avec l'aide des voisins, avec l'aide des réseaux sociaux. Ouais, il y a une chaîne alimentaire qui s'est faite, parfois alimentaire, parfois hygiénique, parfois un petit peu vestimentaire. Donc voilà, oui, on a pu avoir cette solidarité, mais on dit quel travail pour obtenir cette aide. Donc, ouais, c'est un travail de longue haleine, c'est du 24/24. On travaille très durement et on se repose pas et c'est vraiment, vraiment très dur seul.
Valérie Manteau?
Mais vous aviez, enfin, juste un dernier mot, mais c'est vrai que la solidarité des gens du quartier, elle a été vraiment magnifique et très forte. Et la réponse que vous avez eue de l'élu du secteur, Ravier, dans la presse, je crois que c'était dans La Provence, qui a eu cette phrase, mais quand on parlait de violence tout à l'heure, qui s'exerce quand même sur les gens, qui a dit oui, on va s'arranger pour que les gens soient pris en charge et qu'ils retournent chez eux, c'est-à-dire dans leur pays, qu'ils soient pris en charge, pas par les services sociaux, mais par la police. Voilà ce qu'on entend de la part des élus quand on a des drames comme ça.
Oui, Stéphane Ravier, quand même sénateur, RN, d'extrême droite.
Afida, on vous remercie pour votre témoignage.
C'est moi qui vous remercie à tous.
Merci.
Valérie Manteau, on voit les solidarités, les collectifs qui ont pris le pas sur les politiques. On s'attendait à trouver les oppositions, je parle pas seulement de la gauche ou autre, intervenir, à se montrer davantage sur ce dossier-là. Et finalement, ce sont les collectifs qui ont pris le pas, ce sont les citoyens.
Je crois que je reproche pas aux politiques de se montrer ou de pas se montrer. Il y en a qui viennent de temps en temps quand même... un peu se montrer, mais après, c'est vrai que la solidarité qui s'est organisée, je pense que le 5 novembre a été un moment de prise de conscience très fort, une sorte d'électrochoc pour des citoyens lambda qui n'étaient pas forcément engagés en politique avant, qui ont rejoint des militants de beaucoup plus longue date. Si je prends l'exemple du collectif du 5 novembre, il y a des gens qui sont des militants de longue date dans divers partis de gauche, ou pas dans des partis, dans des syndicats, dans des associations. Et il y a aussi des citoyens qui n'ont jamais mis les pieds dans une organisation politique, mais qui ont trouvé cette forme-là du collectif, de la solidarité simplement du quartier au début, puisqu'au début c'était quand même pas mal centré sur Noailles, pour faire à manger ensemble, puisque le début du collectif du 5 novembre, il était beaucoup de questions de ça aussi, de collecter les dons, de faire des cantines de quartier pour donner à manger aux délogés, pour organiser les repas de Noël et les fêtes de fin d'année pour les enfants. Tout ça, ça a été aussi la base de l'organisation qu'on voit aujourd'hui en action, qui a pris des formes beaucoup plus politiques, la négociation sur la charte de relogement. Ça a été un débouché de ça, plus politique, plus organisé. Mais il y a toute la chaîne est là. Et je pense que c'est ça qui est très nouveau et très fort dans Marseille.
La Grande Chatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Valérie Manteau, vous avez choisi de nous faire écouter une musique. Alors, je crois que vous l'avez déjà passé sur Radio Grenouille, mais alors dites-nous qui a été votre choix.
Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais effectivement, je crois que la dernière fois, c'était dans une émission ici aussi. C'est une chanson que Kenny Arcana a faite pour rappeler à la dernière grande marche qu'il y a eu. C'était déjà en février dernier. C'était la marche du 2 février contre le mal logement et pour le droit à une vie digne. Et elle avait fait cette chanson que je trouve très mobilisatrice. On en a encore besoin en septembre 2019, je crois.
Au ventre, notre ville en deuil. Marseille centre effondré, notre ville en pleurs. Prévisible donnerait presque un goût de rancœur. Combien d'alertes ignorées. Mairie mafieuse en rigolait, elle a laissé crever nos bâtiments. Peu à peu a chassé le centre de ses habitants. Projet euromètre, politique d'aménagement par la force. Demande à l'assaut les âmes, pourquoi les murs et les lacrymos.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Les toits des écoles s'écroulent, donne l'alerte. 22 millions d'euros pour détruire la plaine Noailles. En deuil, toute la ville répond à l'appel CRS. Par centaines comme sentence, comme Marseille en colère. Marche unie, marche ensemble, les fissures s'aggravent. Ouais, je rejoins le ralliement capital de la rupture quand même, les bâtiments craquent.
Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Sauvez-nous,
un million pour détruire.
La Grande Tchatche, le Ravi, Michel Guéraud.
Donc, on poursuit sur Marseille et sur le moment politique qui est le nôtre, qu'on le veuille ou non. Il y a des élections qui approchent et des candidats déjà déclarés. Il y en a au moins trois. Stéphane Ravier, on vient d'en parler, le sénateur d'extrême droite, ex-maire de secteur, et qui est candidat une nouvelle fois. Il y a Bruno Gilles, un autre sénateur, LR, qui lui parle d'une nouvelle gouvernance à Marseille. Il fait partie de l'équipe. Pourtant en place depuis pas mal d'années. Celle qu'on attendait, en tout cas, dont on attendait l'annonce.
Avec impatience.
Voilà, tout le monde attendait son annonce et elle l'a faite, donc c'est Martine Vassal. Et ça y est, elle s'est déclarée, elle a dit « Marseille, je la ressens dans mes tripes. Ma passion pour la ville, je veux aujourd'hui la communiquer. J'ai aussi la volonté d'agir, volonté qui est à l'origine de mon engagement politique. C'est cette passion, cette volonté et aussi cette culture du résultat qui m'amène devant vous. Elle est candidate déjà... présidente du conseil départemental, présidente de la métropole marseillaise et aujourd'hui candidate pour présider la destinée de la ville de Marseille. Et face à ça, il y a une attente, une envie de ces collectifs, etc., de au moins un point qui rassemble tout le monde, de peser sur cette échéance-là.
Il y en a besoin, parce que là, tous les gens dont on parle, bon, quand on parle de renouvellement de la gouvernance, c'est quand même une blague que ça vienne de Bruno Gilles ou de Martine Vassal qui va essayer de jongler avec le bilan de Godin comme elle peut, mais bon, c'est son bilan à elle aussi. Les gens qui vont vouloir changer quelque chose dans cette ville, on est bien obligé de constater qu'on va pas voter pour ces trois personnes, disons. Qu'est-ce qui va se passer en face? C'est vrai que c'est un débat hyper marécageux dans lequel moi je suis pas très à l'aise de m'engager. Évidemment que comme citoyenne, on a vraiment besoin d'un changement. Et le changement, c'est pas juste pour le plaisir de changer. C'est là, il va falloir repenser profondément, d'abord l'éthique des personnes qui seront élues et le rapport qu'ils auront avec les citoyens. C'est-à-dire, il suffit pas de remplacer les gens, même par des gens qui seraient de meilleures personnes ou avec plus de conscience de leurs responsabilités politiques, mais que le rapport entre les personnes qui seront élues et la population, et notamment les mouvements citoyens qui se sont constitués ces derniers mois ou qui existent depuis des années, que ce rapport-là ne soit pas juste une délégation de confiance et qu'ensuite les gens soient élus pendant 25 ans sans devoir rendre de compte.
Valérie Manteau, au-delà de vous, moi, les collectifs, il y a quand même 800 000 habitants dans cette ville. Vous pensez que l'exaspération d'une partie de la population face à l'incurie des services municipaux, à la fracture sociale, à vraiment cette dégradation du quotidien, vous pensez que ça va se traduire dans les urnes, ça?
Je l'espère, mais ça se traduit pas dans les unes tout seul. Déjà, encore faut-il qu'il y ait une proposition qui émane de la population. Moi, je pense que c'est à mesure qu'on sollicitera les gens, qu'on leur fera comprendre que cette tradition un peu trop ancrée dans Marseille de pas se mêler du politique, de faire comme si ça ne nous regardait pas, et de les laisser faire ce qu'ils veulent dans leur coin, que ça doit s'arrêter. Parce que ce qui s'est passé quand même, disons, ne serait-ce que l'année dernière, c'est pas possible. J'espère qu'on en a tous quand même conscience. Donc cette exaspération, j'espère qu'elle va trouver une traduction en politique, bien sûr.
Vous avez des échos au-delà des gens qui sont impliqués dans les mouvements?
Je ne sais pas ce que ça veut dire au-delà, parce que tout le monde est impliqué, pas dans le mouvement, mais tout le monde a une connexion. 3500 personnes délogées, ça échappe pas trop aux personnes dans cette ville. Je pense qu'on en connaît tous. Je pense qu'on est tous sensibles à ce qui se passe quand même dans la ville. Quand Maison Blanche brûle, moi je vais vous dire... Maison Blanche, ça a brûlé le 23 août. Donc, on était plus de 6 mois après les effondrements de la rue d'Aubagne. Rue d'Aubagne, on peut dire, on savait pas, on s'y attendait pas. Les immeubles s'effondrent sous nos yeux, on a 8 morts. Maison Blanche, au début des années 80, il y a déjà eu 8 morts suite à une explosion. Cette copropriété, elle est signalée depuis des dizaines d'années comme étant dégradée et dangereuse. Et là, on a un incendie extrêmement spectaculaire. Afida parlait des flammes immenses qui sortaient de l'immeuble. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, ça recommence. On a laissé les gens habiter dans cet immeuble qui est notoirement dangereux, et là peut-être on va ravoir des morts et ce sera notre faute. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise. On est encore dans ce moment-là où on peut être responsable à tout moment de morts qui seraient dans la rue d'à côté ou dans le quartier d'à côté. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait présent à l'esprit au moment où on va aller voter.
Michel ?
Alors il y a des processus, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'effervescence. Il y a eu les états généraux qui ont lieu à Saint-Charles au début de l'été. Et puis il y a eu un pacte démocratique qui est sorti de ces états généraux, vous l'avez signé avec beaucoup d'autres. quelques phrases. Nous avons mis en acte notre volonté de faire de la politique autrement. Ça veut dire quoi, ça, alors, la politique autrement? Parce que c'est, bien sûr, on comprend, mais ensuite, comment faire?
Donc, ce que je veux dire, la dynamique des États généraux, ça a été une réunion de 60 collectifs, associations et syndicats actifs sur Marseille. C'est énorme déjà d'arriver à se rassembler ensemble et de se dire on a une expertise citoyenne, nous qui ne sommes pas forcément des élus, il y en a quelques-uns dans le tas, mais qui ne sommes pas engagés en politique, mais qui sommes engagés sur le terrain, nous savons comment faire les choses bien pour cette ville. Simplement, on n'a pas les manettes, mais on est capable de produire de l'expertise citoyenne et de mettre ça en commun et de se dire nous tous déjà, on est cette force-là. Et on est capable, à partir de là, d'aller faire des propositions d'ordre politique. Moi, j'ai signé le pacte démocratique en juillet, quand la proposition a été faite, parce que le pacte, justement, c'est un bon mot, qui est tressé avec le citoyen, me convient. L'exigence démocratique me convient. De dire il faut aller faire des assemblées, il faut d'abord aller parler aux gens, d'abord renouer le lien entre les personnes qui vont aller se présenter et les citoyens. Et ensuite, on peut commencer à discuter de qui est tête de liste et de qui est élu et à quel poste. Ce serait bien d'inverser ce processus-là. Et c'est ça qui me semble très important.
Alors là où, ça se complique, mais en même temps, il y a encore des discussions et tout le monde se croise. Il y a aussi le rassemblement inédit, le mouvement sans précédent. Alors, c'est des termes un peu ronds. Flanc. On parle aussi d'un collectif qui s'appelle Mad Mars, qui disent en gros, il est urgent parce que l'échéance arrive et il faut co-construire un programme, il faut faire une liste parce que ça va passer par ça et il faut fédérer les hommes politiques de bonne volonté et ces collectifs et ces citoyens qui ne sont pas encartés, mais il faut y aller et le temps presse. Et puis cette détermination-là, elle braque aussi d'autres qui ont peur d'une récupération une nouvelle fois. Parce qu'il y a eu déjà des tentatives comme ça de lits citoyennes à Marseille.
Moi je pense que le problème du calendrier, le problème de cet argument que le temps presse, il peut nous faire faire des choses qui seraient décevantes à long terme. Moi j'ai très peur de ça. Quand on se dit, bah voilà, si l'échéance maintenant c'est mars et qu'on doit tous courir pour répondre à cette échéance de mars, on risque de monter des usines à gaz ou des projets qui ne seraient pas satisfaisants démocratiquement. Et ensuite quoi? On va aller voter. Et dans un an, on se reparle et on sera tous déçus des personnes qu'on aura élues. Il faut arriver à faire quelque chose entre deux. Je pense que ce qui a été conduit par Mad Mars autour du rassemblement inédit, de mettre autour de la table tous les politiques de gauche pour essayer de faire une liste d'union, c'est très bien. C'est un bon début. Et je dis pas du tout qu'il faut mettre tous les partis politiques existants de gauche à la poubelle. Il faut qu'ils soient présents sur les listes et que les élus qui n'ont pas été indignes ces dernières années puissent se représenter. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il est évident que sur cette liste, il faut qu'il y ait une place qui soit faite à la société civile. Ça me semble pour moi le plus important. C'est-à-dire la réunion des partis de gauche, pour moi, c'est un préalable. Je comprends qu'il y a des tractations sans nom entre eux, mais c'est leur problème. Moi, je m'en fous complètement de savoir si eux, ils pensent qu'ils ont suffisamment de sièges. Moi, j'imagine que c'est ce genre de discussion qu'ils ont. Et qui va être tête de liste? Est-ce que c'est Barle? Est-ce que c'est Payan? Est-ce que c'est je ne sais pas qui? Moi, je ne pense pas du tout que tout ça
Barle, se fait EELV, solution. EELV,
non, mais parce qu'on entend Payan, parler de PS. Lui, de leurs ambitions éventuelles, chacun. Ça s'exprime dans la presse. Et pour moi, c'est vraiment ça la mauvaise façon de présenter l'échéance municipale. On s'en fout de qui va être la tête de liste et de qui est le parti.
C'est une question cactus, mais il faudra quand même la présenter, ne serait-ce que pour respecter les règles.
Non, mais il faudra bien à un moment faire une liste. Mais d'abord, est-ce qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'on avance dans la construction d'une confiance possible entre les citoyens et cette liste d'opposition?
Justement, la confiance, qu'est-ce qui rassemble, par exemple, le collectif Mad Mars, dont nous avons reçu la présidente ici, avec le syndicat des quartiers populaires, par exemple? Le collectif Mad Mars, c'est plutôt des professions libérales. Ils sont prêts à s'allier, comme l'a dit Michel tout à l'heure, avec certains politiques. C'est quoi la mayonnaise pour les faire travailler avec le quartier populaire de Marseille, avec le syndicat des quartiers populaires de Marseille, par exemple?
Il n'y a pas de mayonnaise, à ma connaissance, qui fonctionne entre les deux. Mad Mars, ils ont œuvré pour mettre autour de la table les différents partis politiques. C'est pas des militants de terrain, à ma connaissance. Ils n'ont rien à voir avec le syndicat des partis populaires, qui fait partie du mouvement social, avec une légitimité depuis des années, et un vrai travail de construire une relation avec la population. On est sur deux planètes différentes, et il me semble que tous les collectifs qui ont participé aux États généraux et dont beaucoup se retrouvent au pacte démocratique sont sur une dynamique différente qui est de travailler le mouvement social. Ça n'est pas l'objet de Mad Mars. Et donc pour moi, ils sont pas sur la même planète. Après, que tous ces gens-là travaillent ensemble à un moment donné pour faire une seule liste, évidemment, ça me paraît une bonne chose. Et en tant que citoyenne, je serais très heureuse de voter pour cette liste. Mais encore faudra-t-il qu'on ne nous mette pas le couteau sous la gorge en disant que voilà, maintenant que c'est dans 3 mois, il faut absolument des noms et que comme le mouvement social, c'est trop lent à faire émerger des personnalités, eh ben, on va passer à la trappe. Ça, je ne suis vraiment pas d'accord pour entendre ça. Et on a besoin de plus d'exigences, de vraiment beaucoup plus d'exigences et de pas la solution pragmatique disant qu'on n'a pas beaucoup de temps et que du coup, il faut que ça soit telle ou telle personnalité qu'on connaît déjà. Ça me semble vraiment problématique et j'ai peur que dans un an, on reproduise des déceptions. Voilà.
Michel.
Et en même temps, on parlait de Martine Vassal, mais objectivement, on le sait. Il suffit de lire La Provence, qui est un petit peu l'organe officiel de sa candidature. Mais tous les pouvoirs économiques et politiques convergent en fait vers sa candidature. Et en clair, théoriquement, elle est déjà élue. Enfin, je le dis sans cynisme. Hein, et en réalité, ce n'est pas le cas, hein, bien sûr, parce qu'il peut y avoir plein de surprises.
Oui, je sais pas.
On n'est pas
dans les élections, c'est que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu.
Exactement. Mais enfin, voilà, c'est écrit. Il y a beaucoup d'organisations, d'argent, de stratégies. Il y a de la communication qui se met en route. Il y a une machine là qui arrive. Est-ce que vous pensez que finalement toute cette attente, elle va pouvoir se prendre forme en fait en si peu de temps?
Parce que je suis trop optimiste, j'en sais rien. Non, moi je pense que bon, il tient à nous aussi de faire entendre le gros problème qu'il y a avec la candidature Vassal. Si elle essaye de se présenter comme quelqu'un qui va renouveler les pratiques politiques, ne serait-ce que sur la question du mal logement, il y a eu des semaines et des mois de négociations sur la charte de relogement et elle, en tant que présidente de la métropole, n'a jamais daigné assister à aucune réunion. Elle se contrefout de ce sujet qui pourtant relève d'elle. Elle a des compétences sur cette question. La métropole va devoir rénover certains quartiers test à la Belle de Mai et à Noailles. Comment ça se fait qu'on ne l'a jamais vu s'intéresser aux problématiques qu'on a dans ces quartiers? Donc que Vassal ait une machine de guerre derrière elle pour faire campagne, c'est évident. Il tient à nous de montrer aussi que c'est pas quelqu'un qui convient, il me semble. On a été avec le collectif faire une action il y a quelques mois, c'était pas un meeting puisqu'elle n'était pas encore officiellement candidate à ce moment-là, mais une réunion des Républicains dans les quartier sud, à la Pointe Rouge, au Yachting Club. Il faut quand même dire où ces gens se réunissent. C'était au Yachting Club de la Pointe Rouge. Et un militant LR qui était là à cette réunion de Martine Vassal est venu nous voir, nous les militants du collectif du 5 novembre, pour nous dire que oui, ça va, il y a deux immeubles qui sont tombés, ça va, quoi. Voilà la façon de penser de ce côté-là. Donc, voilà, on est pris là-dedans. Évidemment que tout vaut mieux que Vassal, peut-être. Il va falloir construire quelque chose en face. Mais il faut faire attention à ces dynamiques de vote utile. C'est ça que j'essaye simplement de dire. Que quand on a l'impression que toutes les raisons sont bonnes pour construire n'importe quoi en face, non, il faut qu'on essaye de pas faire n'importe quoi. Voilà.
Est-ce que, pour reprendre la formule d'un député local, Jean-Luc Mélenchon, pour pas le citer, il faudrait pas un dégagisme?
Ben non, moi je suis pas du tout... Je ne comprends pas très bien cette dynamique du dégagisme. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. Et je pense qu'on a les forces suffisantes pour faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Que malgré tout, le mouvement citoyen, il n'est pas né hier. Les gens ne sont pas des bleus. Il y a une vraie expertise. Il y a des immenses qualités dans les gens des associations et des collectifs et des syndicats des quartiers populaires dont on parlait. Et qu'il faut mettre ces gens-là au travail et en avant. Mais voilà, mais pas simplement dans le dégagisme.
Jean-Luc Mélenchon, qui a 3 mois de prison avec sursis hein, sur le dos, il y aura un verdict en décembre. Il n'est pas candidat pour l'instant à Marseille. C'est une bonne chose qu'il ne soit pas un candidat. C'est une figure, c'est le député de Noailles.
Oui,
de
c'est
Noailles,
le député de Noailles. Je ne crois pas qu'on l'ait beaucoup vu depuis les effondrements, ni avant. Non, moi, ça ne me contrarie pas de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon comme candidat. Il est député, ben voilà, j'espère qu'il fait bien son boulot comme député, mais... Je pense pas qu'on ait besoin de lui comme maire, non?
Les partis classiques semblent hésitants. Le 5 octobre, il y a une assemblée générale des écologistes à Marseille. Alors un peu dopés par leur score aux européennes, il semblerait que certains aient envie d'une liste unique, indépendante.
Moi, ça me désespère, pardon. Mais alors l'idée que dans la situation qu'on vient d'évoquer, avec la machine de guerre qu'on va avoir en face, et vu les enjeux très graves qu'on a à traiter, parce que qui que ce soit qui va être élu à la mairie, il y a du boulot, hein, ça va être un petit peu compliqué quand même de remettre les choses d'aplomb. Alors maintenant que ELV, sous prétexte qu'ils ont fait un bon score aux européennes, pensent qu'ils vont faire une liste tout seuls, bon, bah, je sais pas quoi dire là-dessus, enfin, moi ça me fatigue, ouais.
Un contre-pouvoir, une véritable démocratie participative, ça c'est les mots que vous avez dit, qu'on entend un petit peu partout, ça c'est, on va dire, c'est les fondements, c'est les piliers de votre engagement. d'engagement de tous ceux qui se réunissent actuellement, tous les collectifs.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, mais de beaucoup de gens que je vois autour de moi dans les collectifs et dans la mobilisation sociale. Justement, j'ai pas l'impression que personne soit dans ces réflexions-là de qui va être mis en avant et qui va pouvoir tirer mieux son étiquette du jeu. On n'est pas dans ces problématiques-là. On est en train de se dire comment est-ce qu'on restaure un lien de confiance dans cette ville? Comment est-ce qu'on arrive à faire un peu en sorte que cette ville, elle tienne debout, simplement? Parce que littéralement et métaphoriquement, on est à ce point de rupture-là. Donc on est dans ces problématiques-là. Voilà, c'est pour ça que toutes ces discussions sur qui va être tête de liste, etc., j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on se pose des questions beaucoup plus profondes sur qu'est-ce que c'est la légitimité, qu'est-ce que c'est la dignité et l'indignité des personnes qui sont élues, quelles sont leurs responsabilités. Et une fois qu'on aura posé ça un peu sérieusement, on peut commencer à discuter de qui est candidat et qui ne l'est pas, et qui est légitime pour l'être ou pas.
Michel.
Alors cette saison, dans la Grande Charge, on fera toujours un peu d'auto-promo pour le Ravi, ce mensuel satirique qui ne baisse jamais les bras, mais qui parfois a quelques crampes. Et dans le numéro de septembre, toujours dans les kiosques, on a fait un dossier sur qui titrait « École en péril », et qui rappelle que Marseille reste la capitale des écoles publiques, aux locaux hors d'usage ou insalubres, et que les années et les promesses passent, et l'urgence demeure. L'école, c'est aussi un dossier central.
Je crois que c'est...
Alors, je sais que vous n'aimez pas parler de tout.
Exactement. Hein. J'aime pas du tout m'exprimer sur les sujets que je connais pas très bien. Et les écoles, en l'occurrence, c'est pas un dossier que j'ai suivi. Cela dit, c'est un sujet qui est suffisamment de notoriété publique, qu'on a un gros problème avec les écoles ici. De la même manière que le mal logement, c'est des sujets à l'abandon depuis très longtemps, qui ont fait l'objet d'une mobilisation sociale très forte, d'un soutien de la population très fort, grâce à la pétition. Ils avaient essayé de monter le sujet et finalement gagné sur ce dossier des PPP. Je pense que là, on est dans un des exemples de mobilisation sociale qui a fonctionné ces derniers mois. Et ça, c'est encourageant. Et c'est là-dedans qu'il faut continuer à travailler.
En même temps, le point commun, c'est l'entrée des 80 000 enfants. La rentrée, c'était il y a quelques semaines de ça. Les syndicats des Bouches-du-Rhône, SNU, FSU, a critiqué l'insalubrité des établissements scolaires. Ça, c'est un des points... commun avec le drame.
Oui, des écoles qui sont dans des états catastrophiques, on en entend parler régulièrement. Et puis même, on s'ajoute un autre sujet sur les personnes qui sont délogées et relogées à l'hôtel. Par exemple, je pense à Maison-Blanche, puisque l'incendie de Maison-Blanche, c'était la semaine avant la rentrée. Les gens se retrouvent relogés à l'hôtel, certaines les premiers jours. Maison-Blanche, c'est dans le 14e. Il y avait des personnes à l'Estac, il y avait des personnes au Prado, et il y avait des personnes à côté des puces des Arnavaux, là. Pour amener les gamins à l'école, ça devient une galère juste pas possible. Alors, on suppose évidemment que les gens ne travaillent pas en plus, hein, parce que si on commence à travailler, laisse tomber, on peut même plus avoir. Enfin, il faut choisir entre travailler ou avoir des enfants ou les mettre à l'école ou quoi. Et les problématiques pour les enfants de déloger, elle est hyper sensible, elle est hyper grave, et je ne sais pas si elle a été prise à la mesure de ce que ça a pu faire comme traumatisme dans certaines écoles, dans les quartiers de Noailles, où il y avait une grande partie des classes dont les gamins étaient délogés, qui est des gamins qui ont vécu à l'hôtel pendant des mois. Avec pas de possibilité de faire les devoirs correctement, etc. Enfin, ces problématiques-là, je suis pas sûre non plus qu'elles aient été tout à fait pesées.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'intérêt du gouvernement lors du drame. On vient d'apprendre il y a 24 heures de ça que finalement, il n'y aura pas d'audit du gouvernement sur l'état des écoles à Marseille. C'était une promesse de Jean-Michel Blanquer. Elle restera sans suite. Faute d'avoir emporté l'adhésion des parlementaires, là aussi, le gouvernement recule en rétropédale.
Le gouvernement fait des annonces et ne respecte pas ses annonces. Bon, malheureusement... on est un petit peu habitué. Il devait aussi avoir un audit sur l'habitat insalubre à Marseille, sur 4000 immeubles, ça avait été annoncé. Bon, ça, c'est pareil. Je dis pas que le gouvernement fait rien, malheureusement. La mairie fait pire. Alors du coup, on est parfois obligé de se reposer sur l'État qui fait son boulot pas si mal depuis le début de la crise, mais avec les défaillances habituelles.
Michel ?
Alors, il nous reste 10 minutes d'émission et on voudrait aussi que vous regardiez, enfin, vous dites... quel regard vous portez sur Marseille depuis aussi votre position et le fait que vous êtes souvent en Turquie, que vous avez raconté ce pays et comment il bouge et comment il évolue aujourd'hui dans le sillon. Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça à faire entre Istanbul, Marseille, ou est-ce que c'est vraiment devenu un vers totalement différent?
C'est pas complètement différent. Après, c'est vrai que quand on fait des comparaisons, on s'expose toujours à faire des comparaisons entre des choses assez peu comparables. Istanbul, c'est 20 millions d'habitants dans un pays avec quand même une problématique et économique et politique très différente de la nôtre. Cela dit, je peux quand même vous parler d'un parallèle très, très frappant que j'ai pu faire la dernière fois que j'ai passé un peu de temps à Istanbul, au début de l'année dernière, enfin au début de cette année, c'était l'ouverture du procès de la mobilisation de Gezi. 2013, au début de l'année, à Istanbul, en 2013, il y a eu l'occupation de la place Taksim pour protéger le parc Gezi. C'était un projet de rénovation de la place Taksim, qui est la grande place centrale.
Je crois que vous voulez faire une mosquée ou quelque chose comme ça.
À Istanbul, alors la mosquée elle est faite maintenant, mais surtout ils voulaient réaménager la place, en faire un espèce de centre commercial et raser le petit parc Gezi qui est au milieu de la place. Et ce projet de raser le parc a déclenché une mobilisation populaire spontanée, énormissime, des millions de personnes qui ont occupé la place et qui a été extrêmement violemment réprimée par la police, mais qui à la fin a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, même si on a cette fameuse mosquée qui a émergé sur la place, le parc existe encore. Et quand j'étais à Istanbul au début de l'année, c'était l'ouverture du procès de Gezi. Dans la vague de la répression qui s'abat en ce moment en Turquie, ils ont ouvert ce dossier qui a 5 ans pour en profiter, pour mettre en prison ou en examen certains militants très identifiés qui faisaient partie de la mobilisation de Gezi. Et ils les accusent d'avoir voulu renverser le régime, enfin de choses horribles. Et il y a des gens qui sont en prison, Osman Kavala notamment, qui est un mécène extrêmement connu, qui est en prison depuis plus de 2 ans maintenant. Pour ça, pour avoir participé à Gezi, soi-disant. Parce qu'en plus, je vais pas rentrer là-dedans. Mais cette histoire de la mobilisation de Gezi, dont le procès s'ouvrait quand j'y étais, et j'ai rencontré beaucoup des militants qui avaient participé et qui maintenant étaient inquiétés, ça ne peut pas ne pas faire écho à la mobilisation de la plaine. Avec des échelles très différentes, mais la façon dont un petit comité de quartier, collectif de quartier, s'est mobilisé au début pour défendre des arbres, puisque c'était ça au début Gezi, et que cette chose est devenue, hors de toute proportion, une mobilisation extrêmement forte, extrêmement viscérale, pour le droit à la ville, pour la façon dont on s'approprie notre propre espace, pour refusant que la municipalité décide sans aucune concertation qu'il valait mieux avoir un centre commercial à cet endroit-là plutôt que les arbres, même si ce parc n'était pas parfait, mais plutôt que les arbres auxquels les gens tenaient. Ça, cette chose-là, je trouvais que ça faisait un parallèle très fort avec ce que nous, on était en train de vivre à la plaine.
Est-ce que vous auriez jusqu'à faire un parallèle entre les... Le personnel politique marseillais et turc, enfin en Turquie on a quand même un régime qui s'approche pas à pas un régime dictatorial.
Oui, on peut toujours faire des parallèles, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on n'est pas tout à fait au même endroit, disons, de la dynamique. Cela dit, moi tout l'objet de mon livre sur la Turquie, du Sillon, c'était de montrer que c'était quand même des dynamiques. On est dans les mêmes dynamiques, on n'est pas au même endroit. Mais la montée du nationalisme, l'abandon des droits au profit de la sécurité, puisque la Turquie, ça s'est radicalisé sur un fond d'attentats qui se répétaient, d'insécurité très forte dans le pays, et puis ils ont la guerre à leurs frontières. Et c'est ça qui a justifié l'abandon par la population du sujet de la défense des droits. On laisse des militants kurdes se faire mettre en prison parce que par ailleurs, il y a des attentats qui sont faits par d'autres Kurdes. On laisse les journalistes être mis en prison parce qu'on a d'autres problèmes plus graves à régler. Et ça, je pense que évidemment à d'autres échelles, je ne dis pas du tout que la France et la Turquie c'est pareil, mais on a la même démobilisation démocratique, on laisse passer des sujets qui à mon avis sont extrêmement graves, extrêmement fondamentaux, d'atteinte aux droits, parce qu'on a l'impression qu'il y a des sujets plus importants. Moi je ne sais pas ce qu'il y a comme sujet plus important que le respect du droit. Une fois qu'on abandonne quelque chose même qui paraît anecdotique, on abandonne quelque chose de très grave.
Le nationalisme en Turquie, à Istanbul, la montée du Front National ici à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône et plus généralement en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ça, je pense que c'est et plus généralement tout autour de la Méditerranée et puis dans le monde entier. Les questions identitaires, la montée du nationalisme, ça, c'est pas du tout un sujet qui est déconnecté d'un pays à l'autre. Justement, ça monte ensemble. Et évidemment qu'il y a eu des déclarations de Stéphane Ravier, décidément, on l'aura beaucoup cité aujourd'hui. Il y a pas très longtemps, disons qu'il reconnaît que les vieux Marseillais, je ne sais pas, les vrais Marseillais ne se reconnaissaient plus dans cette ville. Et je lisais il n'y a pas très longtemps une citation de Jean-Claude Gaudin il y a quelques années où il disait que le centre-ville de Marseille avait été envahi par les étrangers. De quoi on est en train de parler? Et donc ça, c'est des réflexes identitaires, xénophobes qu'on retrouve, alors là, pour le coup, tout autour de la Méditerranée, malheureusement.
Et pourtant, à Marseille, aux doses européennes, à nouveau, c'est pas la première fois, mais le RN était en tête avec 26%, loin devant tout le monde.
Oui, mais il faut voir ce qu'on entend à la radio et de la part de nos politiques tout le temps.
Qu'est-ce que ça dit de Marseille? Ça veut dire qu'il y a dans cette ville, il y a aussi une aspiration cette espèce de conservatisme ou de
bien sûr, mais
radical.
Disons que quand on est sur
xénophobie aussi.
Il y a de la xénophobie, mais le terreau dans lequel on est, les gens, ils sont dans des situations de précarité, ils vivent difficilement et ils entendent toute la journée les politiciens et une partie des journalistes, éditorialistes, je ne sais plus comment il faut les appeler, ces gens qui parlent 24 heures sur 24 dans le poste pour nous expliquer que c'est la faute des étrangers, que c'est la faute des immigrants, que c'est pas grave si les gens se noient en Méditerranée parce que le gros problème, c'est je ne sais quoi sur le voile chez nous. Voilà, les gens entendent ça et font le lien avec ça. Donc si on ne fait pas la connexion entre ces deux choses-là, évidemment, on peut se dire qu'il y a des montées de racisme qui sortent de nulle part, mais ça ne sort pas de nulle part.
Est-ce qu'on peut comprendre quand même le discours de certaines personnes, je fais volontiers l'avocat du diable, quand on parle d'insécurité culturelle, quand on voit des changements aussi rapides, que ce soit le 20h ou dans la rue, quand vous avez des multiculturalismes, certains peuvent se sentir un petit peu déstabilisés, non ? En plus, c'est une population qui est vieillissante.
Ouais, je sais pas, moi ça me parle pas du tout cette question d'instabilité culturelle. Il y a une interview de Léonore Amiano, qui est une romancière que j'aime beaucoup, qui date d'il y a quelques années, où elle répondait à Elisabeth Lévy. Et Elisabeth Lévy lui parlait de cette question d'insécurité culturelle, qui est une éditorialiste de droite, on va dire ça, voire d'extrême droite, oui, extrêmement conservatrice et réactionnaire, et qui lui parlait de cette question d'insécurité culturelle. Et Léonore Amiano a dit cette chose qu'on n'entend jamais et que je trouve peut-être, enfin, je ne sais pas, ça doit faire peur à des gens, mais moi, ça me semble extrêmement rassurant, qui disait, mais il faut arrêter de raconter aux gens que ça ne va pas changer. Ça va changer, nos sociétés vont changer. Nous ne connaîtrons plus les sociétés d'il y a 50 ans et ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. L'insécurité culturelle, je ne sais pas très bien quel sens ça a, mais en tout cas, je ne vois pas en quoi c'est grave. Je ne vois pas en quoi il y a du confort culturel à être entre soi, et je ne vois pas en quoi il y a de l'inconfort culturel à ne pas être entre soi. Donc je pense qu'il faut dire aux gens que s'ils se sentent en insécurité, ce n'est pas grave.
Michel Guéraud.
Je parle évidemment culturellement, je ne parle pas de l'insécurité physique.
Valérie Manteau, l'émission arrive à sa fin. Vous avez signé aussi, vous signez beaucoup de choses. Hein. Je vous en remercie parce que vous avez signé un appel du Ravi. On fait face à un procès Bayon, une procédure des élus varois qui nous font une procédure Bayon et qui nous attaquent à plusieurs reprises. Il n'y avait pas voulu nous parler, puis qui nous attaquent directement et qui essayent d'entraver notre droit d'informer différemment. Vous avez, on l'a rappelé, travaillé avec Charlie. Est-ce que la presse libre, la presse satirique, est-ce que c'est important par rapport à tous les enjeux qu'on vient de poser et à l'échelle locale en particulier où on vit encore en France dans des logiques de monopole, même si à Marseille on essaye de faire un peu différemment?
Oui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de travailler dans la presse indépendante dans le système économique dans lequel on est. Moi, ça me semble évidemment complètement primordial. Vous l'avez dit, j'ai travaillé à Charlie, je suis éditée par un éditeur indépendant pour ces raisons-là aussi. Et ça me semble évidemment important. Après, les stratégies de bâillonnement de la presse et des citoyens par ces procès qui visent juste à faire perdre du temps et de l'argent et à faire taire au bout d'un moment les gens, ça c'est pareil, on parlait des atteintes aux droits, ça paraît pas le sujet numéro un peut-être pour la défense de la liberté pour tout le monde, et mais en fait ça l'est, c'est un point stratégique. Si on laisse des journaux se noyer, et à Charlie dans les années 90 on a eu une vingtaine de procès d'une espèce de pseudo-assaut d'extrême droite qui ne faisait qu'attaquer pour racisme anti-chrétien, qui perdait systématiquement, mais pendant ce temps il y a des procédures en cours, ça fait perdre du temps, on paye des avocats, et au bout d'un moment, ça c'est fait pour essayer de décourager les journaux à faire. Alors, soit pour Charlie, c'était les dessins contre les chrétiens, soi-disant, mais que ça soit des enquêtes sur les élus, etc. C'est évidemment extrêmement inquiétant de laisser faire ce harcèlement judiciaire. Je pense la semaine dernière, j'étais dans la vallée de la Roya et on discutait des problématiques de harcèlement judiciaire des militants avec Cédric Héroux. Et Cédric Héroux qui a fait 8 ou 9 gardes à vue, qui a encore un procès pareil pour insulte au préfet de la région. Et je pense pas qu'il sera condamné, j'espère pas qu'il sera condamné à la fin, mais en fait la question n'est même pas d'être condamné à la fin. La procédure est faite pour décourager les gens. Si on n'a même plus le droit de s'exprimer, si on n'a même plus le droit de faire une enquête. Après l'enquête, il peut y avoir des droits de réponse, il y a d'autres manières de réagir à des propos qui sont tenus par un journal qu'attaquer en justice. Donc voilà, ça il faut pas laisser passer ces trucs-là, il faut quand même protester parce que c'est pas neutre ni dans la vie d'un journal ni encore moins dans la vie d'une personne de se retrouver avec un procès comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Valérie Manteau, je vous remercie. Une dernière phrase, Michel Guéraud, l'évolution du Ravi pour cette nouvelle saison.
C'est... Eh bien, l'évolution du Ravi, c'est dans un mois, on va lancer un site, donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'on pourra désormais lire le Ravi imprimé, on reste toujours chez les marchands de journaux, mais on pourra lire son numéro aussi en ligne, et avec ça, on espère pouvoir, cette fois-ci, être réellement régional. C'est de plus en plus difficile, on en parlait une autre fois, de diffuser un titre indépendant dans le réseau des buralistes aujourd'hui.
Merci Valérie Montaud, encore une fois, mille merci, et puis on se retrouve le mois prochain, bye.
Merci à vous.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenoble.